Mon nom est Anouk Millet et je suis rejointe ici dans le studio avec la vice-présidente Diane Guilbeault de Pour les droits des femmes au Québec. Bonjour Diane.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Donc on va parler de la représentation des femmes ou la représentation médiatique des femmes dans le sport. Donc comme on le sait tous, il y a la Coupe du Monde de soccer qui se passe en ce moment à Montréal, la Coupe du Monde féminine de soccer. Faut pas se leurrer, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de représentation ou que ça attire beaucoup moins l'attention dans les médias que la Coupe du Monde masculine au Brésil de l'année dernière. Et c'est souvent le cas pour beaucoup d'événements sportifs féminins comparé à ceux des hommes. Donc ma première question pour vous, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence et ce contraste entre les deux genres ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications. En fait, moi, j'en vois trois principalement. D'abord, les femmes ont eu accès très récemment au sport, à la pratique du sport. Il y a aussi le nombre de journalistes féminines qui couvrent le sport et la question de l'argent. Alors, je vais élaborer un petit peu pour chacun de ces points-là. Les femmes ont eu accès au sport, en fait, très, très récemment, au début du 20e siècle. Même les médecins disaient que c'était nocif pour la santé, qu'elles pouvaient devenir stériles si elles faisaient du vélo ou si elles couraient. Alors, évidemment, on suit les conseils de ces bons médecins. Et les femmes audacieuses qui ont commencé à faire du sport, elles ont pris leur place, mais envers et contre tous. Et aux Olympiques, c'est seulement en 1900 que les femmes ont pu participer à leur premier sport, et c'était le tennis et, de façon assez étrange, le golf, puisqu'on a souvent pensé que les femmes étaient exclues du golf, mais en fait, elles y ont joué dès 1900 aux Olympiques. Alors donc, c'est une histoire très récente et même la première moitié du 20e siècle, c'est de façon très parcimonieuse que les femmes ont pu participer à des événements d'envergure, même si de leur côté, elles pouvaient faire quelques activités. Mais c'est sûr que se baigner, faire de la natation en maillot à manches longues, ça ne fait pas des records de vitesse. Alors, il y avait énormément d'empêchements pour que les femmes participent au sport. Et quand il y avait des événements sportifs d'envergure, c'était généralement réservé aux hommes et très peu aux femmes. J'ai regardé les statistiques récentes pour voir quand est-ce que les nouveaux sports s'étaient insérés pour les femmes aux Olympiques. Par exemple, la boxe, c'est 2012, c'est hier. 2012. Le cyclisme, la bicyclette quand même, ça fait longtemps que les femmes en font. Bon, aux Olympiques, c'est 1984. Alors, on voit là que les réticences des grandes organisations, et ce sont ces grands événements qui font vraiment mettre le spotlight sur le sport et sur les sportifs. Alors, les sportifs, évidemment, plutôt que les sportives. Après ça, c'est la couverture. Qu'est-ce qu'on en fait comme couverture? Alors, les hommes sont très, 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 très majoritairement les journalistes qui couvrent les activités sportives. Et il y a une journaliste sportive, Marie-Josée Turcotte, qui vient d'avoir d'ailleurs le prix de l'Ordre national du Canada, qui est une journaliste sportive à Radio-Canada, qui disait, en fait, on ne couvre pas la même chose. Souvent, les hommes, c'est les records, le nombre de minutes, le temps que ça a pris, le nombre de coups, le knock-out qui est arrivé à tel moment. Les femmes s'intéressent beaucoup plus au contexte, à l'évolution, à l'aspect psychologique ou aux répercussions. Donc, ça fait une couverture différente. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, mais elle est complémentaire. Mais ce n'est pas encore une couverture qui a la même crédibilité que celui qui peut réciter tous les records du monde parce que ça fait 45 ans qu'il couvre la même activité ou les Olympiques. Alors, évidemment, les femmes ont eu accès très difficilement aux vestiaires. Donc, on pense au hockey, aux différents sports. Ça a toujours été un peu la blague, et c'est encore la blague. Et elles ont tout un code implicite de comportement pour avoir accès aux vestiaires, parce qu'il ne faut pas qu'elles regardent trop, hein, c'est sûr. Et puis donc, elles ont toute une crédibilité et une légitimité à acquérir. Ça commence, il y a quelques journalistes sportifs qui sont reconnus, mais elles ne sont pas nombreuses. On doit le reconnaître, on peut les compter sur les doigts de la main. Et enfin, la question de l'argent. Évidemment, les médias, ça va avec l'argent et ce sont des événements, ce sont des business maintenant essentiellement et il faut que ça rapporte. Alors, les commanditaires sont plus intéressés actuellement par les performances masculines. Les hommes ont des commanditaires qui sont nettement plus généreux pour eux qu'ils ne le sont pour les femmes. Même si, à toutes choses confondues, les records des femmes et les performances des femmes sont exceptionnelles. Je pense par exemple à une Clara Hughes, là, qui est une championne olympique canadienne dans deux sports. Deux sports, le cyclisme et le patinage de vitesse. On serait cru qu'elle serait millionnaire dans être un homme. Mais non, Je suis sûre qu'elle n'est pas millionnaire. On a la capitaine du soccer de l'équipe canadienne. Elle est remarquable, mais son aura, sa renommée n'a rien à voir avec les capitaines ou les joueurs de soccer qu'on a vus l'année dernière au Brésil. Alors, évidemment, il y a cette question de l'argent qui vient accentuer la disproportion entre la couverture médiatique vers les hommes et chez les femmes. D'ailleurs, c'est drôle que vous vous intéressiez à la question parce que The Guardian vient de faire vient de publier plusieurs articles sur cette question-là. Et après 2012, où les performances des femmes avaient été vraiment remarquables, ils pensaient que la couverture médiatique allait s'améliorer. Pas un pet depuis 2012 en termes de proportion de couverture. L'Université de Birmingham aussi s'est intéressée, a fait des études, mais vraiment le compté minute, minute par minute. Et il n'y a rien qui ressort comme amélioration vraiment tangible. Et la semaine dernière, ou il y a deux semaines, l'Université Laval tenait un événement sur les grandes organisations et ils ont inclus la question des organisations sportives. Et là, c'est évident que les femmes, même dans les grandes organisations comme le CIO, des associations de mondiales de soccer ou d'autres sports, les femmes sont en minorité, le mot est faible, en minorité. Alors, c'est tout un ensemble de relents historiques de l'exclusion des femmes de la sphère sportive qu'on voit encore aujourd'hui. Et comme tous les domaines qui sont encore dominés par les hommes, je pense à la finance, donc encore certains domaines, l'économie, les affaires, les banques, c'est encore un fief masculin, même si on constate quand même des améliorations. Il ne faut pas être pessimiste. Je pense que les femmes s'intéressent elles-mêmes comme partisanes de plus en plus au sport. Et ça aussi, ça va venir changer la donne parce que plus il y a de sportives, par exemple, qui font du foot, plus elles vont aller voir des matchs. Et puis, à un moment donné, les commanditaires, mais il faut qu'ils plaisent aussi à leurs partisanes et pas seulement à leurs partisans. Donc, c'est un processus d'amélioration qui est quand même, on le sait, très, très lent.
Vous disiez justement qu'il y avait de plus en plus de femmes qui s'intéressent au sport aussi comme divertissement, pas seulement en tant que sportive. Cependant, on voit quand même qu'elles ont tendance à regarder, on va dire, des sports masculins. Comment est-ce qu'on analyse c'est juste l'accès à la... ce genre de match?
Bon, il y a une question d'accès, de promotion. Évidemment, les matchs du Canadien sont pas mal plus publicisés que des activités ou un match de filles à Montréal, de tennis ou d'un autre sport. Alors, c'est sûr que les femmes sont des consommatrices et elles sont sensibles aux messages qui sont véhiculés. Puis, bon, les joueurs de hockey, prenons cet exemple-là, parce qu'à Montréal, c'est quand même une ville de hockey. Les femmes sont sensibles au star system comme les hommes. Donc, c'est beaucoup, même le sport s'est bâti autour maintenant, c'est devenu une partie du star system et finalement les femmes sont susceptibles aussi d'être des partisanes de ces sports masculins, mais je pense qu'à force de pratiquer du sport, parce que les partisanes ne sont pas toujours des sportives, mais moi je pense que les femmes qui font du sport regardent le sport qui est devant elles dans un stade ou dans un aréna de façon différente, parce que là elles voient le sport comme les connaisseurs regardent un match de hockey. Moi, personnellement, je ne joue pas au hockey, alors que la rondelle se promène d'une manière ou d'une autre. Je trouve qu'elle va vite, mais je n'ai pas les outils pour l'apprécier. Par contre, comme je fais de la natation et du vélo, quand je regarde une coureuse ou même un cycliste monter une côte, ça m'impressionne et je regarde la performance aussi. Alors, je pense que plus on fait de sport, plus on est critique ou plus on est amateur aussi de ses performances, parce que ça sert un peu de modèle. Alors, je pense que tranquillement, le fait que les femmes s'intéressent elles-mêmes comme sportives aussi, même s'ils ne sont pas des championnes, elles le font de façon très, très en dilettante, ça change quand même la vision qu'on a du sport qu'on regarde.
Qu'est-ce qu'on demande aux femmes pour être soi-disant intéressantes?
Ah! Là, vous posez une question très
intéressante. Parce que c'est pas, comme vous disiez, c'est pas les résultats. Il y a vraiment de bons résultats chez les femmes, c'est clair.
Bon, écoutez, moi, j'ai encore sur le cœur la décision du comité olympique pour les femmes qui jouent du volleyball de plage avec leur uniforme de petite jupette. Voilà ce qui intéresse, malheureusement, encore. C'est une horreur. On est au 21e siècle et on a encore là que la petite jupette puis la petite cuisse légère, c'est ça qui va attirer des hommes. On en fait un uniforme olympique. C'est absolument ahurissant. Une une telle attitude rétrograde, une telle réglementation aussi rétrograde. Alors, évidemment, ce sexisme, ça, c'est du pur sexisme, il n'y a pas d'autre mot là, par rapport à ça. Là. C'est sûr que ça imprègne encore beaucoup, beaucoup le monde sportif, qui est un monde, entre guillemets, ils sont très, très gros et très, très en caractère gras, un monde de virilité. Okay? Mmh. Mais la virilité, c'est un stéréotype qui va aussi avec la féminité, avec autant de parenthèses et de guillemets qu'on peut mettre là, sur le sujet. Mais effectivement, c'est encore la quintessence de ces attributs, soit féminins, soit masculins. Et actuellement, comme ce sont des hommes, puis je regarde l'âge moyen des gens du comité olympique pour prendre qu'eux, c'est pas jeune-jeune. Donc, ce n'est pas partie de la nouvelle génération des jeunes papas qui s'occupent de leurs filles et de leurs fils. Donc, ils ont encore une vision extrêmement stéréotypée de ce qui plaît aux hommes de leur génération et de leur culture, parce qu'il y a quand même des hommes plus âgés qui ont évolué. Là, mais là, on regarde quand même cette décision du comité olympique qui est impardonnable en ce qui me concerne. Et on voit que les stéréotypes jouent encore un rôle majeur dans l'intérêt de ce qui fait la force de l'une et de l'autre. Je regarde, par exemple, la couverture d'Eugénie Bouchard, qui est une joueuse de tennis. Bon, cette année, elle a des difficultés. Mais l'année dernière, au Québec, bon, il y a un petit côté chauvin, mais quand même, il y avait de quoi être fière. Elle joue de façon remarquable, exceptionnelle. C'est sûr que ça fait aussi partie du star system, mais je pense que ça permet quand même à des jeunes femmes de s'intéresser au sport et de dire, ben moi aussi, je pourrais jouer au tennis, c'est un beau sport, et puis elle va faire de l'argent pour les uns, c'est important, mais elle va avoir une renommée pour d'autres, c'est plus important, mais elle s'épanouit dans ce sport de façon exceptionnelle, tout le monde ne peut que le remarquer. Alors, je pense aussi que ces grands noms, même si des fois le star system a ses défauts, je pense que ça peut avoir un effet d'entraînement pour les jeunes filles ou les petites filles qui veulent commencer à faire du sport. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Nadia Comăneci en 1976, cette petite de 10 ans qui faisait des prouesses sur la poutre et c'est partout. Il y a combien de petites filles d'abord qui se sont appelées Nadia, ça c'est une chose, mais qui se sont mises à la gymnastique, c'était exceptionnel. Il y a eu vraiment un engouement extraordinaire pour les filles de s'intéresser à ce sport. Donc, il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs, mais c'est sûr que tant que les stéréotypes vont être aussi entretenu et aussi fort, ça aidera pas les femmes à avoir une meilleure visibilité, une visibilité intelligente, c'est-à-dire que on peut avoir une visibilité la petite jupette, mais c'est pas ça qui rend la sportive intéressante. C'est comment elle joue, et c'est pour ça que cette année quand même, je considère que la couverture du mondial de soccer des femmes est quand même une amélioration par rapport aux années précédentes. C'est sûr que si on compare avec le Brésil l'année dernière, rien à voir. Puis tout à l'heure, vous disiez, tout le monde est au courant. Tout le monde n'est pas vraiment au courant parce que l'année, pour le Brésil, on allait dans n'importe quel bar, puis il y avait une télé qui était ouverte, puis il y avait même des patrons qui donnaient quelques minutes de congé ou de gentillesse à leurs employés pour qu'ils regardent certains matchs. Mais quand même, je regarde pendant dans le devoir, il y a une section spéciale qui a été consacrée à ça dans beaucoup de médias. Et tous les jours, on a mentionné au moins un match, si ce n'est pas deux, et des performances de la capitaine ou de ses rapports avec son équipe, etc. Donc, il y a quand même une amélioration assez exceptionnelle si on part à 4 ans ou même si on compare à il y a 20 ans, il n'y a pas de comparaison. Donc, ça vient tranquillement, pas vite, mais c'est comme le reste. Les femmes sont habituées d'être patientes, là, mais des fois, je pense que la jeune génération piaffe davantage d'impatience, puis c'est très bien. Je pense qu'il faut pousser là-dedans.
Donc, cette couverture médiatique, malgré qu'elle s'améliore, elle reste très moindre. Comment est-ce que vous pensez que cela impacte les femmes sportives et qui cherchent, ou les athlètes qui cherchent à s'améliorer en fait dans leur sport?
C'est sûr que ça a un effet parce que plus il y a de visibilité, plus les commanditaires sont intéressés, plus les commanditaires investissent dans un sportif ou dans une sportive, plus la personne a des chances de s'améliorer, d'avoir des conditions idéales d'entraînement, avoir un meilleur entraîneur, pouvoir voyager, participer à des compétitions sportives. C'est sûr que c'est un cercle vicieux. Cette visibilité, elle est essentielle parce que ça fonctionne. Il y a des bourses que le pays peut donner, mais c'est quand même marginal par rapport à l'apport essentiel des commanditaires sur la carrière d'un sportif de haut niveau, même pas professionnel, mais de haut niveau. On pense à tous nos plongeurs, à nos plongeuses, à tout ça, qui ont besoin vraiment de cet apport-là. Alors, l'absence de visibilité a un effet direct sur l'investissement possible sur le développement sportif de la personne et sur ses performances. Et c'est ça qui m'attriste beaucoup parce que probablement qu'on a beaucoup de Cindy Klassen et puis de Clayaro qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne verra pas s'envoler parce qu'elles n'auront pas eu les conditions idéales pour développer leur plein potentiel. Alors, c'est sûr que les femmes, la présence de femmes journalistes, c'est pour ça qu'il y a vraiment une contribution de cet aspect-là qui est important. Les femmes journalistes vont parler des performances sportives des femmes d'une façon autre aussi. Elles vont obliger leurs équipes ou même leur chef de pupitre, des fois, en tout cas, elles vont les inciter, si elles ne peuvent pas les obliger, à couvrir davantage une compétition sportive ou un match qui peut avoir de l'importance pour le développement de la sportive. Donc, comme elles s'intéressent d'une autre façon à la compétition sportive, elles peuvent, elles aussi, contribuer à cette meilleure visibilité et éventuellement, donc, à ces plus grands investissements chez les joueurs et les sportifs, les joueuses et les sportives prometteuses.
Merci beaucoup pour cette interview.
Ça m'a fait plaisir.